rencontre avec Certains l'aiment chaud de Billy Wilder. Il existe de nombreuses études, analyses et commentaires de Certains l'aiment chaud de Billy Wilder. Voici comment commence celle faite par le Centre national du cinéma. Rafale de balles, jazz, soleil de Floride et sexualité, Billy Wilder désigne le hot à tous les degrés dans Certains l'aiment chaud, Some Like It Hot. À la veille des transgressions des années 60, il combine les gags d'une comédie populaire où le déguisement drague resterait bon enfant avec un échauffement tous azimuts du désir dans sa pluralité. Conte initiatique masculin ? Hommage au cinéma de l'âge d'or des studios ? Choc entre deux féminités jouées, celle des travestis et celle de la pin-up préférée des Américains ? Certains l'aiment chaud est tout cela à la fois, car Wilder, avant tout scénariste, fait de la féminité la condition de la survie, dans un script qui convoque, sur un rythme effréné, la violence du film de gangster, le noir et le blanc du muet, le burlesque des Marx Brothers et le glamour de l'icône sexy par excellence, Marilyn. En branchant la fin des années 20, l'époque de son action, sur la fin des années 50, le moment de sa production, le film fait l'impasse sur la comédie sophistiquée des années 30 et 40, où des couples de la haute société se déchiraient et se rabibochaient à coups de répliques spirituelles. Mêlant les gags énormes et les sous-entendus sexuels, Certains l'aiment chaud renouvellent le cinéma comique et balaient même la frontière entre les sexes. Par quel détour un récit aussi subversif a-t-il pu ravir l'Amérique d'Eisenhower ? Que raconte Certains l'aiment chaud de si subversif ? Chicago, 1929. Joe et Jerry, musiciens de jazz, sont témoins par hasard du massacre de la Saint-Valentin perpétré par Spats Colombo, seul moyen d'échapper aux gangsters. Se faire embaucher pour une tournée en Floride dans un orchestre féminin. Travestis et rebaptisés Joséphine et Daphné, ils sympathisent dans le train avec la chanteuse de la troupe, la délicieuse Sugar. Arrivés en Floride, Daphné tape dans l'œil du vieux millionnaire Osgood et Joey, qui se redéguise en homme, séduit Sugar en se faisant passer pour un riche héritier. Ils sont démasqués par les gangsters qui séjournent par hasard à leur hôtel pour un congrès. Joe et Jerry fuient à bord du bateau d'Osgood, rejoints par Sugar. Au large, les travestis avouent leur masculinité qui ne semble étonner ni Sugar ni Osgood. Je ne reviendrai pas sur la dualité à l'œuvre dans tout le film, à la fois entre les personnages qui sont tous duels ou doubles, et entre les mots qui contiennent tous un double sens, voire un triple sens.
It's not the backs that worry me.
Well, what kind of a band is it anyway?
You gotta be under 25.
We could pass for that.
You gotta be blonde.
We could dye our hair.
And you gotta be girls.
We could. No, we couldn't.
Je m'arrêterai tout de même sur le prénom Daphné, qui ne peut être innocent, d'autant que ce prénom, choisi par Jerry, devait être Géraldine, le féminin de Gérald, comme Joséphine est le féminin de Joey. C'est Jerry qui avait choisi lui-même Géraldine. Finalement, au moment de monter dans le train, il se nomme Daphné. Daphné est un personnage doublement intéressant, puisque c'est un personnage de la mythologie grecque, qui signifie laurier. On pourra lire son histoire dans les Métamorphoses d'Ovide. Il s'agit d'une nymphe dont Apollon tombe amoureux. Il la poursuit à la fois physiquement et moralement, jusqu'à ce que Daphné, épuisée, implore son père de la sauver des assauts répétés d'Apollon. Il la transforme alors en laurier. Comme je l'ai déjà dit, Daphné signifie laurier en grec. C'est pourquoi Apollon porte sur sa tête un laurier en souvenir de celle qu'il n'a pas pu réellement attraper. Il porte donc sur sa tête une partie du corps métamorphosé de Daphné en guise de trophée. Il est aussi intéressant de noter que le prénom de ce personnage est proprement féminin, contrairement à Géraldine, et qu'il raconte les poursuites incessantes que subissent les femmes. S'agit-il aussi de raconter une métamorphose d'un homme en femme ?
We call ourselves Josephine and Geraldine.
En effet, il serait intéressant d'étudier la réception et les critiques du film. À sa sortie, celle des cahiers du cinéma est relevée dans le dossier du Centre national du cinéma. La force de Jack Lemmon, écrivait le critique Jacques Deniol-Valcroze dans les cahiers du cinéma à la sortie du film, c'est d'avoir l'air continuellement d'un homme jouant le rôle d'une femme. Avoir l'air continuellement d'un homme est ce qui semble le plus important pour le critique. Les spectateurs de certains Lemmshow dans les années 50 ne perçoivent pas le caractère subversif du film. Balayer la frontière entre les sexes, voire dénonciateur des violences faites aux femmes. En effet, ce film pose de manière troublante et répétée la question du consentement entre hommes et femmes. Ici, la femme, que ce soit Daphné ou Sugar, est clairement une proie, tandis que l'homme est un chasseur. On notera que Joey est présenté au début du film comme un séducteur qui possède un tableau de chasse. Il collectionne les femmes. Il faudra qu'il transforme aussi son corps d'homme et porte notamment des lunettes pour devenir un amoureux capable d'empathie et de dons envers Sugar. Les deux hommes vont être doublement poursuivis, à la fois en tant que témoins et surtout en tant que femmes. On peut se demander si Daphné a couché avec Osgood. La métaphore des musiciens aux yeux bandés lors de la scène étonnante de danse jusqu'à l'aube le laisse entendre. Mais on peut se demander si Jerry, Daphné, était consentante. En effet, il a d'abord reçu une main aux fesses de la part d'Osgood, main aux fesses que nous ne voyons pas, mais qui est racontée par Daphné par des gestes grossiers suivis de la fameuse réplique devant la glace « Je ne suis même pas belle ».
What happened?
I just got pinched in the elevator.
Well, now you know how the other half lives.
Look at that, I'm not even pretty.
They don't care, just so long as you're wearing a skirt.
Daphné va subir les assauts d'Osgood, vieillard libidineux et immature, jusqu'à ce qu'il se laisse faire et s'abandonne et y prenne visiblement un certain plaisir qui le fait sentir femme au retour de sa nuit avec Osgood, à condition que l'on considère que jouer au maracas allongé sur son lit est une activité féminine. Ainsi, le spectateur d'aujourd'hui est frappé par le caractère révolutionnaire du propos que proposent certains Lemmshow. Il semble dénoncer plus que raconter la guerre des sexes imposée par une idéologie patriarcale. En 1950, il donne à voir et à penser un autre système de relations et de pensées possibles. Nobody is perfect.
I don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.
Christelle Tarot, dans l'introduction de Féminicide, une histoire mondiale, parue en 2022, écrit « Ces discriminations genrées ne recouvrent pas uniquement les préjugés sur les femmes et les conditions socio-économiques inégalitaires qu'elles subissent, ce que l'on constate partout et à toutes les époques, mais forme un système de violence si ancré, si incorporé, si intégré, aussi bien individuellement que collectivement, qu'il finit par être transparent, impensé, tabou. Ce système, c'est le patriarcat. Le film donne ainsi à voir la transparence du système de violence envers les femmes, à travers une comédie qui permet de se voiler la face, de se cacher les yeux, comme les musiciens dans la scène de danse, mais elle sert aussi à corriger les mœurs, ou en tout cas, à sortir de l'aveuglement. Le slogan des féministes des années 70 « Un homme sur deux est une femme » est donc déjà à l'œuvre dans ce film.
None of that, sugar. No guy is worth it.
Les « je » sont tous doubles dans un film où les deux personnages principaux sont des hommes qui se métamorphosent en femmes. Mais Joey et Jerry sont aussi et surtout des amis très proches qui vivent et travaillent ensemble. Leur couple est si lié intimement qu'ils partagent leur argent, la même chambre et le même désir pour Sugar. Ils vont certes se la disputer, mais il semble établi dans leur relation que Jerry est toujours le perdant. Il ne sait pas courir après les femmes comme Apollon, Joey. Jerry va donc laisser non seulement sa place, mais aussi se sacrifier pour son ami qui ne voit aucun danger à ce qu'il passe une nuit avec un autre homme, Osgood. Il va même permettre à Joey de se métamorphoser à nouveau en milliardaire, cette fois en milliardaire, puisque Joey va pouvoir occuper le bateau du véritable milliardaire, Osgood, et y faire son nid comme un coucou. Joey va même jusqu'à se faire passer pour un héritier de la famille Shell en montrant le coquillage, la coquille Saint-Jacques, qui symbolise pour Sugar les milliards et pour nous spectateurs, au minimum la Duprie, et pour ceux qui savent, la naissance de Vénus. Selon la légende, Vénus, déesse de l'amour, est née des parties génitales du dieu Uranus, coupées par son fils Saturne, puis jetées à la mer. Elle est souvent représentée sur un coquillage, la coquille Saint-Jacques. Nous voilà donc encore confrontés à une histoire de sexe, l'histoire d'une fille née des parties génitales de son père jetée à la mer. L'histoire du duo Joe et Jerry, J&J, est insaisissable, bouleversante, comme la course-poursuite incessante et frénétique du film dans lequel tous les corps sont sans cesse en mouvement et en métamorphose.
I don't understand, Osgood.
I'm a man. Well, nobody's perfect.
Il y a d'autres doubles jeux derrière le film. C'est le couple de scénaristes et d'amis qu'a formé Wilder et Diamond, alias Samuel Wilder et Itek Domnichi. C'est non seulement une écriture à quatre mains, mais aussi un tournage à deux voix où Wilder dirige et où Diamond contrôle l'exactitude du texte prononcé par les comédiens sur le tournage, comme le racontent M. Wilder et moi dans le roman de Jonathan Coe, paru en 2021. La narratrice se remémore l'avant-dernier tournage de Billy Wilder, Fedora. Il a l'air très heureux de refaire un film, dis-je, l'observant alors qu'il s'adressait à une rangée de spectateurs qui jouaient des coudes pour leur dire de reculer avec l'aide de l'assistant réalisateur. Il est dans son élément, il adore tout ça, le chaos, l'adrénaline. Et vous ? Moi, je préfère mener une vie tranquille, mais ce n'est pas moi qui choisis. Il aime m'avoir auprès de lui. Sur un plateau de tournage, devais-je comprendre plus tard, 95% du temps consiste à rester là, les bras ballants, en attendant qu'il se passe quelque chose. Puis le récit du tournage continue. Cela me fit néanmoins réfléchir. Je me disais que ça devait faire tout drôle, peut-être même être assez gênant, d'assister au tournage d'une scène qu'on avait soi-même écrite. Monsieur Diamond soupira et me dit « Voilà une de ces scènes qui paraissent tellement simples quand on les couche sur le papier, mais en réalité, on allait au-devant des ennuis. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. » Ce duo-duel est donc aussi doublement présent dans certains Lemshow, tant dans la coécriture que dans la co-réalisation que dans une amitié complexe, où Billy Wilder peut être associé à Joey et Izzy Diamond à Jerry. On pourrait penser que ce film sonne comme une co-déclaration d'amour qui raconte la fuite en avant de l'un tandis que l'autre le suit, malgré la fatigue et le peu de place que Billy Wilder lui laisse, y compris dans nos mémoires.
I can never have children. We can adopt some.
But you don't understand, Osgood.
I'm a man.
C'était la première partie de Rencontre avec certains Lemshow de Billy Wilder.